Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous reprenons ensemble, donc, dans nos lectures en liberté, la suite du roman de Alice Zeniter, L'art de perdre. Choisir son camp n'est pas l'affaire d'un moment et d'une décision unique, précise. Peut-être d'ailleurs qu'on ne choisit jamais, ou bien moins que ce que l'on voudrait. Choisir son camp passe par beaucoup de petites choses, des détails. On croit n'être pas en train de s'engager et pourtant c'est ce qui arrive. Le langage joue une part importante. Les combattants du FLN, par exemple, sont appelés tour à tour Fellaga et Mujahideen. Fellag, c'est le bandit de grand chemin, le coupeur de route, l'arpenteur des mauvaises voies, le casseur de tête. Mujahid, en revanche, c'est le soldat de la guerre sainte. Appeler ces hommes des Fellaga, ou des félouzes, ou des fels, c'est au détour d'un mot les présenter comme des nuisances et estimer naturel de se défendre contre eux. Les qualifier de Mujahideen, c'est en faire des héros. Chez Ali, la plupart du temps, on ne les appelle que le FLN, comme si lui et ses frères sentaient que choisir entre Fellag et Mujahid, c'était déjà aller trop loin. Le FLN a fait ci, le FLN a fait ça. On pourrait presque croire que ce ne sont pas des hommes qui composent ce front, que le FLN est une émanation étrange, une pensée politique qui se serait solidifiée en un corps tentaculaire capable de tenir des armes ou de voler des moutons. Mais lorsqu'un mot vient sous la langue parce que le besoin se fait sentir de parler de quelques hommes distincts et non plus de la pieuvre ou de l'aigle ou du lion énorme dans son entier, alors c'est Fellaga qu'ils emploient, Ali et ses frères, sans mépris ni colère. C'est juste ce qui leur vient. Mais qui peut dire si le mot découle d'une position politique déjà campée ou si c'est lui au contraire qui va former peu à peu cette position en se sédimentant dans le cerveau des hommes en une vérité inaliénable. Les combattants du FLN sont des bandits. À l'association, ce jour-là, ils sont plus nombreux que d'habitude et plus nerveux. Il n'y a pas de jeu de cartes sur les tables, pas de dominos. C'est une djemma improvisée, une assemblée qui a lieu pour discuter d'événements récents qui les concernent tous et qui les inquiètent. Dès sa formation, le FLN a interdit aux Algériens de traiter avec l'administration française, de voter, d'exercer des fonctions électorales et surtout, pour les hommes réunis aujourd'hui, de toucher une pension d'anciens combattants. Il n'y a rien de surprenant, rien de nouveau. C'est la position des diverses mouvances nationalistes depuis 10 ans déjà. Mais cette fois, le FLN vient de le proclamer à grand renfort d'affiches et de tracts dans le village des deux hommes de l'association. Ces affiches affirment que quiconque désobéit est un apostat et sera puni de la peine capitale. C'est pour cela que l'association est pleine ce soir-là, bruyante et agitée. Les hommes veulent parler de la réaction qu'il convient d'adopter face à ces interdits. Ils se font passer un tract de main en main, et même les analphabètes le regardent avec attention, froncent les sourcils, le soupèsent. Ils scrutent ces caractères qui couvrent la page comme des insectes épinglés en espérant, peut-être, que ceux-ci se mettent soudain à bouger ou à leur parler comme ils semblent parler aux autres. « Ils interdisent même de fumer des cigarettes !» souffle un homme. Ali ne peut se retenir de rire. Celui qui parlait le foudroie du regard, puis peu à peu il se détend, répète la phrase et sourit lui aussi. « Ce n'est pas sérieux, des cigarettes ! C'est à ça que tient le combat pour l'indépendance de l'Algérie, au boycott du tabac qu'ils fument tous ?» « En quoi ça nous débarrassera des Français, un truc pareil ?» demande Ali. « C'est surtout nous que ça emmerde. » C'est comme si je me coupais la main en espérant que ce soit au Rumi que ça fasse mal. Un vieux de la première. La formule est saluée par des hochements de tête. « Il faut des sacrifices pour arriver à l'indépendance, » proteste Mohand, seconde. « Vous ne pouvez pas rester sur vos gros culs et espérer qu'elle arrive dans un claquement de doigts. Tiens !» Il écrase sa cigarette sur le sol carrelé de la salle. « Moi, j'arrête si c'est nécessaire. C'est rien du tout. » « Et nos pensions ? C'est rien du tout, ça aussi ?» demande Kamel. « Si j'arrête de la toucher, tu crois que le FLN va faire vivre ma famille ?» Et puis, d'où tu parles de l'indépendance, toi, avec tes grands mots, la dépendance, tu la verras pas de ton vivant, crois-moi. Les Français, ils ne repartiront pas d'ici, dit Galid. Tu as vu tout ce qui est en construction, tu imagines qu'ils vont nous le laisser ? Alors on n'essaye même pas, demande Mohand en tordant la bouche. Le FLN, il n'arrivera à rien qu'à foutre le bordel. Sur qui ça retombe, le bordel ? Sur eux ? Tu parles sur nous, toujours. Quelqu'un va forcément le dire, prononcer le nom de l'ogre. Ça ne manque pas. Tu as vu, Sétif ? Des milliers de morts, des milliers. Tout ça pour avoir montré le drapeau algérien. On a bien le droit d'avoir un drapeau, non ? Moi, je ne l'ai jamais vu. C'est le drapeau de qui, ce drapeau ? Tu crois que c'est le drapeau de nous, les Kabyles ? Tu crois que les Arabes, ils vont être plus tendres que les Français ? Krim Belkacem, il est Kabyle. Krim Belkacem, il veut que tu lui donnes tes cigarettes. Il y a de nouveaux éclats de rire, plus brefs, plus aigus, et Mohand crie. Et les Français, eux, ils veulent qu'on leur donne tout le pays ! Pays, drapeau, nation, clan, ce sont des mots qu'ils emploient peu. Les mots qui, en 1955, peuvent encore avoir des sens différents pour chacun. Le sens que l'on veut leur donner, que l'on espère qu'ils prennent, ou que l'on craint qu'ils ne revêtent. Mais une chose qui est sûre, tangible pour tous les hommes de l'association, une chose qui paraît peut-être mesquine lorsqu'on la regarde à l'échelle de l'histoire, mais qui, dans cette salle blanche, vibre de toute sa force, c'est que pour suivre le commandement du FLN, il leur faut renoncer à leur pension. « Mais alors ?» murmure Akli. « On se serait battu pour rien ?» Il en a presque les larmes aux yeux. Ce n'est pas l'argent seulement qui s'envolerait. Ce serait le statut et tous les souvenirs, la raison même de l'association, faire en sorte que ces hommes donnent une signification aux boucheries absurdes auxquelles ils ont pris part. Et pour Akli, si la pension est le signe qu'il s'est vendu aux Français, il voit cette vente comme la preuve de sa dignité et non du contraire. La pension signifie que les colons ne peuvent pas simplement se servir dans les réserves de chair des colonies. La pension signifie que le corps d'Akli lui appartient et que s'il décide de le louer, il est en droit d'obtenir une compensation. Sans cette compensation, alors à qui est le corps ? Il n'est pas au FLN, quand même. Ali est mal à l'aise. Il sait que pour lui, l'argument de la nécessité ne fonctionne pas. Il pourrait renoncer à sa pension et continuer à faire vivre sa famille à la différence de la plupart des hommes réunis autour de lui. Mais si la faim ne le menace pas directement, faut-il pour autant qu'il ampute ses revenus ? Il transforme sa gêne en altruisme pour ne plus la sentir. « Et les veuves de guerre, demande-t-il, il faudrait qu'elles renoncent à la pension, elles aussi. Elles n'ont plus rien. Elles n'ont plus d'hommes. Leurs enfants n'ont plus de père. Ils vont faire quoi, le FLN ? Les épouser et venir s'occuper de leurs terres ? » Après des mois dans le maquis, je suis sûr que beaucoup d'entre eux seraient contents de s'occuper de leurs terres, dit Galide avec un petit sourire. Il y a des gloussements et des froncements de sourcils. Donne-moi la figue et de l'eau de ta source, chantonne Geli. Ouvre-moi la porte de ton jardin. C'est une vieille chanson qu'ils connaissent tous, mais ce soir-là, aucun homme ne la reprend. Et Gélide laisse mourir le chant sur ses lèvres, comme si ça avait été son intention dès le départ. Il rallume une cigarette. N'empêche qu'après la Toussaint rouge, ils ont fait les malins, dit Mohand. Les Roumis, les Caïdes, tout le monde. Ils nous ont dit qu'ils ne feraient qu'une bouchée du FLN. Et alors quoi maintenant ? Le FLN, il est toujours là, et c'est lui qui écrit les lois dans les villages. Moi, j'y croirai quand je les verrai, marmonne Ali. Et moi, je préfère pas les voir, murmure Galide. La discussion se poursuit tard, mais elle ne fait que tourner en boucle. Ce qu'Ali ne dit pas, ce sont les raisons personnelles qui le poussent à se défier du FLN. Ali a désormais 37 ans et il supporte mal la jeunesse des dirigeants rebelles dont les noms ont commencé à apparaître, une partie dans les journaux, d'autres uniquement par le bouche-à-bouche. Il supporte mal leur manque d'éducation aussi. Il les voit comme de jeunes paysans en colère et il ne comprend pas pourquoi ils seraient dirigés par ces hommes qui n'ont jamais rien fait pour mériter leur titre, les grades dont ils se parent. La plupart ne sont même pas mariés, dit chef de famille. Et ils prétendent diriger une katiba, toute une région et pour certains d'entre eux même le pays. S'il doit obéir à quelqu'un, Ali veut que ce soit quelqu'un qui l'impressionne. Et par là, ce qu'il pense sans tout à fait se l'avouer, c'est quelqu'un qui ne soit pas comme moi, quelqu'un dont la supériorité me soit montrée comme évidente, si bien que je ne puisse pas le jalouser. On raconte qu'avant de lancer le soulèvement de 1871, El-Mokrani, qui jusque-là avait suivi et même devancé les ordres des Français, a déclaré « Je consens à obéir à un soldat, mais pas à un marchand. » Ce qu'Ali ressent n'est pas très différent.
My hands round your throat. If I kill you now, well, they'll never know. Wake me up if I'm sleeping. By the look in your eyes, I know the time's nearly come. Wake me up, 'cause I'm dreaming. Well, they'll never believe what's been happening here. But caught in my mind, there's a way to get out. Wake me up, 'cause I'm dreaming. Well, they'll never believe it. So hush now, my baby, please don't cry. Everything's gonna be alright.
are screaming. Let me hold you until the morning. Tell me this is what you want. You can whisper it soft or you can scream it out loud. Cause there's still time to change your mind. But do it now before tomorrow. Wake me up, cause I'm dreaming. Well, I'll never believe it. So hush now, my baby, please don't cry. Everything's gonna be alright. Hush now, darling, I can hear you screaming. Let me hold you until the morning. The light is fading, but the stars are dancing bright. My mind is racing like the clouds across the sky.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Alice Zeniter, L'art de perdre. Il fait nuit, nuit totale, nuit dense. Une de ces nuits qui ne permettent pas de dire si ce qui est là-haut, tout proche dans l'étendue noire, c'est le ciel obscurci ou le flanc invisible de la montagne. Il fait nuit calme et profonde. Soudain, un trou de lumière dans le tissu opaque, jaune, orange, rouge, qui déchire la nuit de flammes et la perce d'étincelles. Le premier qui le voit réveille les maisons alentour par un cri « le feu dans la montagne !» Un deuxième foyer s'embrase alors sur la crête qui fait face à celle d'où est parti le premier. Là aussi, un feu ! Un troisième, un quatrième s'allument à leur tour. Le village est encerclé de ces feux perchés sur les hauteurs dont on sent la fumée, dont on entend les craquements. La nuit n'a rien d'autre à porter. Les lumières et les bruits de la ville sont à des kilomètres. Alors, les flammes, apparues à intervalles trop réguliers pour annoncer un incendie sauvage, semblent démesurées dans le vide et le calme de la montagne. Pourtant, elles ne s'étendent pas, ne lancent pas de langues brûlantes à la recherche de la moindre herbe sèche. Elles se dressent seulement, menaçantes et contrôlées, par des êtres invisibles. Les hommes sortent des maisons. Ceux qui possèdent un fusil de chasse le tiennent à la main. Les enfants, réveillés dans leur sommeil, crient et pleurent. Bientôt, un âne s'y met aussi. Immensité baroque de sombrement qui se répercute contre les rochers. Dans le village, entrent trois formes sombres. Quand elle s'approche, on distingue que ces hommes portent des vêtements militaires et paraissent lourdement armés. Ils alpaguent les villageois qui sont dehors et leur ordonnent de se rendre à la place principale. Puis ils cognent aux portes des notables, celles des Amrouches, puis celles d'Ali et de ses frères. « Rassemblez les hommes, » disent-ils d'un ton calme, mais qui n'admet pas d'objection. « On va parler. » Le pantalon de fine toile que Djamel a passé à la hâte pour leur ouvrir dissimule mal son érection nocturne. « Pardon de te déranger, mon frère, » glisse un des hommes avec un sourire complice. « Rends-toi présentable, » commande durement Ali à son cadet. On lui avait dit que les hommes du FLN étaient des brutes. Il est surpris de leurs bonnes manières, de leur tenue correcte. En comparaison, Jamel, avec son pyjama impudique et ses yeux gonflés de sommeil, a l'air d'un animal. En route vers la place, Ali observe les feux qui entourent le village et évalue la distance à laquelle il se trouve. Ce sont des réflexes lointains qui reviennent alors qu'il croyait les avoir perdus, et avec eux, la peur revient aussi, un frisson le long de l'échine qu'il essaie de maîtriser ou du moins de dissimuler. Devant les flammes, il voit passer les silhouettes de plusieurs hommes. La ligne droite du fusil leur dessine dans le dos une antenne unique en ombre chinoise. Combien sont-ils ? 20, 50, 100 ? Le mouvement permanent rend toute estimation impossible. L'homme qui paraît être le chef du détachement FLN regarde Ali regarder. « Oui, dit-il, nous sommes nombreux. » Et avec une solennité telle qu'Ali se demande si elle n'est pas empreinte d'ironie, « Nous sommes la nation. » Cet homme est le seul à porter une mitraillette, une Sten. Ali la reconnaît immédiatement. Même Naïma la trouverait familière. C'est l'arme de résistant dans tous les films de guerre qu'elle a pu voir. Il a le visage amaigri des maquisards, le nez saillant, les yeux légèrement enfoncés dans leur orbite. Il est rasé de près, ce qui n'a pas dû lui arriver depuis longtemps, car la peau reparue sous la barbe est blanche et fragile. Elle brille dans la lumière du feu. Cette tendre pâleur fait ressortir encore davantage l'épaisse moustache brune qui tombe parfaitement autour de la lèvre supérieure. Cet homme a fait un effort de présentation avant de venir, et cette observation rassure Ali. S'il veut faire bonne impression, c'est qu'il n'est pas venu pour tuer. Les deux autres lui inspirent moins confiance. L'un a des yeux crottés et le second une cicatrice sur le sourcil qui lui dévie le regard. Seul l'homme à la moustache, celui que les autres appellent lieutenant, correspond à l'image qu'Ali se fait d'un guerrier. Les autres sont au mieux des voleurs de poules. Il sent que le lieutenant pense comme lui et que la proximité de ses deux acolytes le rend nerveux. Il ne les quitte jamais tout à fait du regard. Quand le village est réuni, le lieutenant fait asseoir la foule et lui-même s'assied en tailleur. Ali note la souplesse de ses mouvements et pense que son corps osseux, comme celui d'un affamé, est loin d'avoir perdu tous ses muscles. L'homme a quelque chose du fauve. Ali ne sait pas que les militaires et la police française l'appellent entre eux le loup de Tablat. C'est un nom qui lui va bien. La presse s'empressera bientôt de le reprendre. Quand il commence à haranguer la foule, il ne se présente pas, il va droit au but. Nous avons pris le maquis pour nous battre au nom de notre pays. Nous sommes là pour tenir tête à la France, car il est temps pour nous de gagner notre indépendance ou de mourir au combat. Hier, nous n'étions qu'une poignée, nous marchions en cachette. La France en a profité pour dire sur nous des mensonges et des injures. Elle essaie simplement de vous tromper. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne sommes pas des bandits. Nous sommes des moudjahidines, des combattants. C'est la France qui vous vole, c'est la France qui vous tue. De combien d'innocents ont-ils le sang sur les mains ? La France nous a poursuivis longtemps. Elle ne nous a jamais trouvés. Aujourd'hui, nous nous montrons. Voyez, nous ne sommes pas des hors-la-loi. Nous sommes comme vous, des Kabyles, des musulmans. Et surtout, nous voulons être des hommes libres. Cette montagne, elle est à nous. Cette terre, ici il prend une poignée de sable et de gravats sur le sol et la consistance le fait sourire. Cette terre, Elle est dure, elle est maigre, mais elle est à nous. Les oliviers, les sources, les chèvres, les céréales, les vignes de la vallée, le liège, les minerais qu'ils sortent de la terre éventrée à Bou Médrane, est-ce que ce n'est pas à nous aussi ? Le village oscille entre l'exaltation et la peur. Exaltation parce que tous ici pensent en effet que les Français n'ont aucun droit sur ce que le sol de la montagne donne aux Kabyles. Peur du « nous » utilisé un peu trop légèrement par cet homme que personne ici n'a jamais vu. Nous sommes un pays riche. La France nous l'a fait oublier parce qu'elle a tout gardé pour elle. Mais quand elle partira, ce sera le paradis. Le temps est venu. Vous n'avez pas à avoir peur. Nous sommes puissants, nous avons des armes et nous ne sommes pas seuls. La Tunisie, le Maroc, l'Égypte vont nous aider, croyez-moi. La France partira bientôt, qu'elle le veuille ou non. Ce n'est pas une émeute, c'est la révolution. Des cris de joie s'élèvent sur la place et sans voir ce qui se passe, les femmes dans les maisons répondent par des you-you qui traversent les murs et montent dans la nuit noire jusqu'au feu, jusqu'aux étoiles. Nous sommes un peuple fier, reprend le lieutenant, un peuple uni dans la lutte. La révolution est l'affaire de tout le monde. Vous aiderez, vous aussi, à chasser l'envahisseur. Comment ? Demande Ali. Le lieutenant se tourne vers lui, le jauge du regard. Vaut-il la peine qu'on prenne en compte son interruption ? Puis incline la tête sur le côté. Le FLN ne vous demande pas de vous battre, pas aujourd'hui. Mais vous pouvez nous prévenir des mouvements de l'armée française, de leurs allées et venues sur la montagne, des endroits où ils établissent des barrages, toi. Il désigne Valis, le jeune fils de Farib Belkadi, qui bombe le torse. Tu seras le guetteur. Valis improvise un salut militaire. Quelque chose dans la scène dérange Ali. La fierté de Valis ne suffit pas à masquer le fait qu'il s'attendait à cette nouvelle, qu'il connaît déjà cet homme, peut-être. Ali regarde discrètement autour de lui. Combien sont-ils dans le même cas ? Quelqu'un a-t-il fait venir le FLN jusqu'au village ? Qui ? Et en échange de quoi ? « Toi !» dit ensuite le lieutenant. Son doigt pointé désigne un des fils Amrouche. Ali sent son cœur se figer, comme si son sang tout à coup était devenu froid et pâteux. « Tu prélèveras l'impôt. Désormais, vous ne paierez plus le caïd, ce chien vendu aux Français. Nous organiserons dans ce village la collecte de l'impôt révolutionnaire. » Je vous promets qu'il sera juste, mais qu'il est nécessaire. Si nos hommes ont besoin de se reposer ici avant de remonter au maquis, vous leur fournirez une cachette et de la nourriture. C'est pour vous qu'ils se battent. C'est pour l'Algérie. Vive l'Algérie ! À ces mots, les cris de joie s'élèvent de nouveau. L'orateur est habile, pense Ali. Il soulève les poitrines de la foule suffisamment vite pour qu'elle ne puisse pas réfléchir au coût de ce qu'il vient de lui demander. Il a connu des hommes comme ça il y a 10 ans de l'autre côté de la mer, des officiers qui savaient mener leurs troupes à la mort en chantant sans leur laisser le temps d'y penser. « Vive l'Algérie algérienne !» crie le village. « Vive la Kabylie !» crie un vieil homme. « Vive l'Algérie algérienne !» reprennent plus fort les deux acolytes du lieutenant. Le vieil homme ne se laisse pas voler la parole et il entonne « J'ai juré que de Tizi Ouzou jusqu'à Akfadou, nul ne me fera subir sa loi. Nous nous briserons, mais sans plier. » Le poème est repris en chœur. Pendant le tumulte heureux, le Moudjahid sort de sa besace un Coran et de sa ceinture un long poignard. « Maintenant, dit-il, jurez sur le Coran que nous sommes tous frères, tous unis dans le combat pour notre pays et que vous ne préviendrez personne de notre passage. » Et le village entier jure dans une unité qu'on ne lui connaît pas. Ali, comme l'aîné des Amrouches, Valis, le guetteur, le jeune Youssef, en criant très fort, le petit Omar, avec une gravité nouvelle. « C'est bien, » dit le lieutenant. « Le Coran, c'est bien. La parole donnée, c'est beau. Mais souvenez-vous aussi de ça. » Il fait alors sauter son poignard d'une main à l'autre, non pas dans un geste agressif et brutal, mais avec une nonchalance joueuse. Il sourit de toutes ses dents pour la première fois. Et Ali revoit en lui le fauve de tout à l'heure, magnifique et terrible. « On ne gaspillera pas de balles pour les traîtres », conclut-il simplement. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Alice Zénitaire, L'art de perdre, que nous retrouverons la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.